Rebonjour. Alors, pour nous remettre dans le contexte, je suis Jean-Max Denis et je travaille au musée dauphinois avec Patricia à Grenoble. Et le musée dauphinois, en fait, on est à peu près une trentaine à peu près à travailler au musée. Hein. Grosso modo, c'est quand même une structure assez importante et qui dépend d'un réseau de musées du département. Donc, il y a 11 musées aujourd'hui dans le département. Ma fonction, c'est depuis très peu de temps, je m'occupe de la phonothèque, donc je connais relativement peu le fond. Mais ma présence au musée elle tourne principalement autour de la vidéo, en fait, voilà, et du fond vidéo, de l'inventaire des fonds qui arrivent régulièrement. Et depuis peu de temps, je m'occupe aussi de la captation. Donc aujourd'hui, effectivement, on fait toujours de la captation sonore, mais au musée, on s'est axé un peu plus sur la vidéo. Alors, ça a quand même vraiment le même principe, hein, c'est-à-dire c'est une caméra fixe, voilà, et pour enregistrer des gens qui ont été, il en reste encore des résistants ou des gens qui ont eu une implication importante dans la région, etc. En ce qui concerne notre histoire autour de la machine à compte, là, je vous présente le musée dauphinois. Je ne sais pas si vous le connaissez ou si vous... il est sur la colline, donc on ne peut pas se tromper, il n'y en a qu'un sur la colline. Voilà. Tout est parti, en fait, finalement, de ce monsieur à gauche qui est Charles Joystein, en fait, qui a été conservateur du musée dans les années 80, 70-80, et qui, lui, a commencé des collectes très, très tôt. Vous le connaissez tous, je pense, en Dauphiné, voilà. On a un fond très important de ce qu'il a collecté, en fait, hein, plusieurs centaines de témoignages, et entre autres pas mal de contes. Donc, on s'est toujours posé la question de savoir comment on pouvait exploiter ce fond-là, en fait. C'est un fond qui est à la disposition concrètement d'étudiants, de chercheurs, voilà, mais pas en consultation libre, pas du tout. Il faut vraiment qu'ils viennent au musée, il faut vraiment qu'ils nous rencontrent. Il faut prendre rendez-vous, tout à fait, il y a un centre de documentation, mais enfin voilà, c'est pas du tout libre d'accès. Voilà, aujourd'hui, on peut consulter le travail qu'a fait Charles Joystein au travers d'ouvrages comme ça, d'une série d'une dizaine d'ouvrages qui sont répertoriés par département. Donc il y en a sur l'Isère, il y en a sur la Savoie, ou Savoie, Drôme, etc. Et tout a été regroupé sous cette forme-là. Mais effectivement, on n'a pas du tout l'aspect sonore, hein, c'est vraiment de l'écrit, quoi. Alors voilà. Pour le coup, on est dans le concret, nous. On n'est pas dans une borne interactive ou un ordinateur qui n'a pas, comment dire, de personnalité. Là, c'est vraiment la machine à compte. Elle est un peu mystérieuse comme ça. Et elle existe, elle est présente au sein du musée. Et je peux te passer la parole pour que tu expliques l'origine du projet, en fait.
Alors, elle est un petit peu mystérieuse. C'est voilà. Pas parce qu'on voulait en faire un mystère, c'est aussi pour des questions techniques. On a été obligé de faire quelque chose d'un petit peu compliqué pour la qualité du son. Alors en fait, la machine à compte, il y a quand même un petit contexte qu'il faut redire. C'est bon, le musée dauphinois a toujours cherché à essayer de donner à voir ou à entendre au maximum de gens. C'est vrai que depuis longtemps, historiquement, au niveau informatique, il était un petit peu précurseur. Et c'est vrai qu'en fait, il a tenté aussi de continuer dans cette voie au niveau numérique, même si on n'a absolument pas la prétention de montrer des choses révolutionnaires. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2013, nous avons accueilli Muséomix au musée dauphinois, et nous avons eu un certain nombre de projets, de prototypes qui ont émergé lors de cette rencontre qui était en novembre 2013. Il y avait notamment un groupe qui s'appelait les Blablateurs, parce que c'est quand même à eux qu'il faut, leur rendre hommage, c'est parti de leur
c'est
idée.
Leur idée, ouais.
En fait, donc on est dans l'exposition Jean de l'Alpe, qui est une exposition qu'on dit au musée dauphinois de longue durée, mais exposition donc permanente, revisitée, qui le sera vraisemblablement dans quelques années. On va un peu tout remettre à plat, comme on vient de le faire pour la grande histoire du ski avec une nouvelle exposition. Et en fait, il y avait une table d'écoute pratiquement au même emplacement que la machine à compte aujourd'hui. Et donc ça a donné, au moment de Muséomix, le groupe des Blablateurs s'est intéressé du coup à ces contes qu'on pouvait écouter avec un petit écouteur comme ça, qui n'a rien à voir avec ça. Et ils ont proposé de refaire, de faire une table d'écoute un peu plus dynamique, voilà, où on pourrait sélectionner de façon tactile, etc. Et c'est là-dessus, c'est à partir de là qu'on est parti sur l'idée de pérenniser ce prototype, parce qu'on ne pouvait évidemment pas tous les pérenniser. Donc Jean Guibal, qui était notre directeur encore à l'époque, a fait ce choix, parce qu'en fait, il voulait aussi mettre en avant le patrimoine immatériel. Il se disait que ce patrimoine sonore, donc, comme disait Jean-Max, n'était pas accessible, enfin, ou à une population très réduite de chercheurs, d'étudiants qui prennent rendez-vous, et on voulait le partager. Alors, du coup, il a fallu, on s'est dit, on va essayer de développer ce projet, qui n'était quand même pas, c'était pas si simple que ça, parce que il a fallu trouver du partenariat quand même, hein, ça a un coût. Et donc, on a pu répondre à un appel à projet du ministère de la Culture sur les services culturels, sur les services numériques culturels innovants. Et c'était en 2014. On a donc rempli un cahier des charges. On a discuté aussi avec le réseau des bibliothèques, la bibliothèque du département de l'Isère, qui est tête de réseau. Ça, c'était très intéressant et c'était un point très, très positif pour le ministère, c'est qu'il y avait un maillage territorial et du coup, il devait y avoir... Alors, j'expliquerai pourquoi je dis qu'il devait y avoir une version itinérante. Nous, nous ne sommes pas sur une version itinérante, mais du coup, il y a quand même une tablette qui a été développée, une tablette beaucoup plus légère. Et puis, on s'est aussi rapproché du Festival des Arts du Récit, puisqu'ils avaient, ils ont l'expertise que nous n'avions pas. Donc ça aussi c'était intéressant, et puis on a aussi été sollicité France Bleu, parce que nous avions aussi besoin d'eux pour l'enregistrement, pour avoir une qualité de son, et ils nous ont mis à disposition, donc on a eu à disposition les studios de Radio France par leur intermédiaire pour des enregistrements, parce que c'est extrêmement coûteux. Donc c'est eux qui ont, c'est leur partenariat à eux, ils nous ont aidés là, ils nous ont aussi mis à disposition un ingénieur après quand on a eu fait l'enregistrement pour faire tout le nettoyage, un ingénieur du son de ces enregistrements, donc, et de faire des fichiers WAVE qu'ils nous ont remis. Donc ça a été une aventure qui a été assez longue, et puis donc tout ça s'est mis un peu en marche. On a fait, donc il y a eu une sélection de contes qui a été réalisée par Alice Stein, donc la femme de Charles Stein. Ensuite Jean Guibal a resélectionné les contes. La difficulté qu'on avait, c'est qu'il fallait quand même des contes assez courts, parce que c'est pas évident, quand ça dure 5 minutes, on décroche assez vite. Donc cette sélection, elle a pris un petit peu de temps. Ensuite, on a transmis les textes à des conteuses professionnelles choisies par les Arts du Récit. Donc c'est vraiment un projet de grande, où il y a beaucoup de monde qui intervient. Et on est allé en studio d'enregistrement. Et parallèlement, eh bien, on avait donc présenté le projet au ministère, qui a été retenu parmi, il y avait 60 projets retenus, il en faisait partie. Une fois qu'il a été retenu, donc on a pu avoir une partie des subventions. À la clé, la suite, elle n'arrivait que quand le projet aurait abouti. Donc tout ça s'est mis un petit peu en marche. Donc on est retourné ensuite au ministère de la Culture, présenter le projet, vraiment leur réexpliquer tout le projet. Et eux, ils étaient intéressés justement par cette idée de réseau, de maillage territorial. Ça les intéressait beaucoup. Qui devait vraiment être porté plus par la bibliothèque départementale qui est tête de réseau d'à peu près 200 bibliothèques, une petite bibliothèque de taille assez différente, mais voilà, c'était ça qui était le plus important. Et puis voilà, on a ensuite lancé un appel d'offres pour trouver un développeur, et on a travaillé avec une société marseillaise qui pouvait aussi faire de la scénographie, parce qu'on voulait aussi que ce soit scénographié. Donc on a modifié un petit peu le parcours de l'exposition Jean de l'Alpe, pas beaucoup, mais on a dû quand même déplacer des objets pour faire la place à cette machine et lui donner, voilà. Et donc permettre aux visiteurs dans l'exposition d'avoir un moment où il a accès à ce patrimoine immatériel. Et donc on rentre en fait.
Voilà, je peux le montrer. J'ai fait une toute petite vidéo parce que comme vous n'êtes pas grenoblois, vous ne l'avez pas vu dans la réalité.
Je vais assez vite sur
le
historique.
Pas,
ça a été,
Pas comment je peux le lancer. Voilà. On ne voit pas grand chose. Oui, c'est effectivement. Donc voilà, on est dans l'exposition Jean de l'Alpe, puis on arrive à la machine, proprement dite, et on va pouvoir entrer par la gauche. Ici, vous voyez ici, par exemple, il y a un petit laïus qui explique un petit peu ce que c'est que la mémoire orale, etc. Un endroit là où on peut lire. On peut aussi lire des livres de contes.
Parce qu'on met des livres à disposition.
Voilà.
On peut prendre. Que
les gens peuvent prendre, oui.
Voilà.
Et puis, on tourne, et on rentre proprement dit dans la machine. Voilà.
qui est quand même dans la pénombre quand on ne l'a pas encore touché. L'écran est allumé, vous voyez. Je le touche et on arrive à cet écran-là. Voilà, pour la vidéo.
Donc là, vous avez un nuage de mots, en fait. Voilà. C'est un thésaurus qu'on a travaillé en lien avec les comptes qui sont dans la base. Donc aujourd'hui, il y a une douzaine de comptes qui ont été enregistrés donc, par des compteuses professionnelles. Pour avoir accès aux comptes, vous avez vu, il y a trois petites figures. Il y a des cadenas. En fait, pour pouvoir... donc il y a une fonction écouter.
Voilà, on est obligé de passer par la première fonction
écouter. On est obligé d'écouter un compte. On va devoir sélectionner quatre mots dans le nuage de mots qui déclencheront l'écoute d'un compte. Et ensuite, les cadenas, donc il n'y en aura plus. On pourra accéder à la fonction compter et la fonction jouer.
Voilà. Ça, c'est le nuage de mots. On doit obligatoirement cliquer au moins sur quatre mots et la machine va... elle sélectionne un seul compte.
Hein. Voilà, elle sélectionne un seul compte. Voilà. Voilà.
Et ici...
Il y a la durée, il y a... Ouais. Ils ont été classés aussi, ces comptes. On a essayé de... Bon, par contre, facétieux, etc. Mmh. Donc ça, on a essayé de le respecter. Une fois qu'on a écouté le compte, donc après, je vous ai dit, les deux verrous ont disparu.
Alors, attendez, j'ai même un... Est-ce qu'il tourne là? Je peux vous faire écouter ce qu'entendent les personnes, voilà. Enfin, ça, c'est un... C'est un extrait. Je ne vais pas vous mettre le compte entier. On a du son ou pas, là?
Ouais, non.
Ah non, peut-être pas. Bon, d'accord.
Si, c'est bon.
Si,
la botte du diable. C'était le fils d'un seigneur qui avait
voilà
tout
ce
mangé en
les gens.
Ce que son père lui avait laissé. Quand il s'est trouvé ruiné, il a fait connaissance d'une jeune châtelaine de son rang. Il est allé la demander en mariage à son père, mais le père lui dit « Comment veux-tu que je te donne ma fille, toi qui as dilapidé une fortune en si peu de temps ?» Comme vous vous aimez, si tu arrives à refaire ta fortune d'ici un an, je te donne mes filles. Alors le châtelain a bien cherché à emprunter pour dire de faire quelque chose, mais comme il avait un mauvais crédit, il n'a trouvé personne pour lui prêter. Et un jour, comme l'échéance approchait, il s'arrachait les cheveux au sommet de son château et s'est écrié « Mais bien sûr, il n'y a que le diable pour me sortir de là !» À ce moment, il sent une odeur de sang.
Je coupe,
quand
je vais passer à la suite,
homme,
peut-être.
Tout habillé de rouge, qui avait des pieds de cheveux.
Alors, juste une petite précision quand même. Dans la machine à compte, il n'y a pas le texte. Volontairement, nous n'avons pas voulu qu'il y ait de texte. On est vraiment sur l'oralité. C'est parce qu'en fait, on a mis en ligne les comptes parce que les gens nous le demandaient, mais sinon, il n'y a pas le texte. On a souhaité qu'il n'y soit pas. Les textes ont été un peu retravaillés par les conteuses, mais pas dénaturés. C'était aussi une commande. On a été assez précis là-dessus. On voulait vraiment qu'elles ne réécrivent pas les textes du tout. Mais voilà, il fallait quand même qu'elles puissent se les approprier pour que ça puisse être assez agréable à l'écoute. Aujourd'hui, j'en parle maintenant parce que je pense qu'on peut soulever ça. C'est si on doit réintroduire de nouveaux textes, parce qu'on en a plein d'autres. La complexité, c'est qu'il faut refaire tout ce travail qui a un coût conséquent, c'est-à-dire retravailler, reprendre donc, des conteuses, retourner dans un studio, etc. etc. Donc ça fait partie aussi de l'enrichissement sur cette base-là, parce qu'il y en a une autre, il y a deux bases. Et plus compliqué, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Après, il y a une autre possibilité, c'est qu'on peut verser un compte. C'était ça aussi qui nous intéressait, c'est ce qu'on appelle compter. Donc, une fois qu'on a écouté, on va pouvoir accéder à compter.
Donc là, il y a les deux cadenas, mais normalement, une fois qu'on a écouté un compte, les deux cadenas disparaissent.
Donc, si on en connaît un et qu'on est visiteur, on peut s'arrêter et déposer un compte.
Et donc là, on va aller sur l'option jouer. C'est un jeu qui permet à plusieurs personnes de construire un compte. Il y a quelques explications sur le fonctionnement du jeu et puis sur les... Je crois qu'il y a sur l'écran. Voilà. On arrive ici et avec le doigt, la personne peut distribuer un certain nombre de cartes. Enfin, s'il y a quatre personnes, on va pouvoir distribuer quatre cartes autour de... Vous imaginez les sièges autour de l'écran.
Voilà.
Maximum, c'est six personnes. Et une fois que ceci est fait, la machine va proposer
un
mot ou une expression que la personne devra utiliser dans le début de son compte, le début de l'invention de son compte. Et puis après, le tac au tac, en fait, c'est l'autre personne qui continuera le compte à partir du mot qui aura été sélectionné, en sachant que le micro de captation est au plafond, Et que ça, il y a les gens ne le savent pas forcément parce que c'est assez dans la pénombre et que ils ont tendance à bouger très facilement et que le son n'est pas forcément dans les meilleurs. C'est pas du studio, quoi. Voilà, c'est aussi une réalité.
On est vraiment dans l'obscurité parce qu'on n'a pas voulu aussi qu'il y ait d'image pour justement que les gens ne soient pas influencés sur par quoi que ce soit. Donc il n'y a pas du tout d'image. On rentre dans un endroit qui est assez obscur. La table, elle est quand même assez grande. Mmh. Mais c'est vrai que, bon, après, la fermeture, c'est vraiment aussi pour essayer d'être dans une qualité de son maximum, même si ce n'est pas parfait. Ça, on en a bien conscience. Techniquement, c'était assez complexe à réaliser. Ça a pris plusieurs mois. Le projet, il a été compliqué à monter, bien au-delà de ce que je vous ai dit, parce que en fait, notre équipe technique, alors on est peut-être nombreux au musée, mais notre équipe technique, nous la partageons. Elle est mutualisée avec les 10 autres musées, ce qui fait que on n'était pas tout le temps prioritaire sur les travaux, et donc il y a eu des morceaux puis on a dû interrompre. Qui nous remettait en selle, qui disait qu'on était obligé, qu'aussi on avait des comptes à rendre, qu'il y avait une évaluation à faire. Enfin bon, c'était voilà. Donc c'est un projet qui a été assez long. Ça démarre avec le Muséomix en 2013, ça n'est officiellement en place dans cet espace qu'en 2016. Donc entre temps, la machine à compte, on l'avait mise à disposition du public, mais dans une salle en bas qui n'était pas scénographiée pour que les gens puissent la découvrir. On a fait des petites tentatives comme ça, mais voilà, on a officiellement, c'était placé que là. Après, ce que vous voyez pas tout là, il y a aussi, on voulait réexpliquer aussi ce que c'était qu'un conte et redire que ça n'est pas une histoire. Et que du coup, on a remis le schéma actantiel, alors avec c'est vraiment du vocabulaire qui n'est pas très encourageant, mais en tout cas, on a tenté de faire ça. Il y a donc la possibilité de déposer un compte et qui rentre dans une base qui s'appelle compte d'ici et d'ailleurs, qui va être ensuite soumis à une modération de notre part. On va y arriver, Jean-Marc va vous en parler. Il y a énormément d'aspects techniques compliqués là qui font que aujourd'hui, c'est quand même un outil qui pour nous est sous-utilisé. Difficile, on a beaucoup de difficultés à savoir le nombre de personnes qui vont. Il y a du monde, on sait qu'il y a du monde, mais après, qui écoute, ça on ne peut pas savoir. Qui dépose, on peut le savoir. Des comptes qu'on garde, il y en a très très peu. Et normalement, on est censé pouvoir. Les gens, quand ils ont déposé un compte, ils doivent remplir leur nom, il y a tout un questionnaire.
Et leur email aussi.
Et leur email, et on leur envoie la réponse pour dire merci d'avoir participé. Mais on ne retient pas votre compte, ou vous viendrez une prochaine fois, ou on retient votre compte. Le problème, c'est que la modération étant assez on ne peut pas faire ça en direct sur la machine, on modère, mais après, il faut charger les comptes avec un disque dur sur une clé, il faut les extraire, les repasser sur un ordinateur, tout ça n'est pas possible en direct, et ce qui fait que ça prend un temps pas possible, et qu'on ne le fait pas régulièrement, on est très peu à pouvoir s'en occuper, et du coup, voilà, on a aussi toutes ces difficultés. Cette médiation, elle nécessite un accompagnement que nous ne pouvons pas faire régulièrement. Ce qui se passe aussi avec la partie itinérante, c'est aussi ça, qui est rencontré aussi dans les bibliothèques, ils n'ont pas non plus forcément les moyens d'avoir quelqu'un qui accompagne. C'est un dispositif qui nécessite quand même un accompagnement. Alors, on arrive à faire des choses sur des événements spécifiques qu'on décide, ou alors dans le cadre du Festival des Arts du Récit, quand il y a, on décide de faire quelque chose à ce moment-là, enfin voilà. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore réussi à l'exploiter de façon pédagogiquement avec des classes. Ça n'est pas possible dans ce dispositif-là, puisqu'on ne peut pas rentrer à 15, c'est impossible. Donc la tablette itinérante, elle avait aussi cette vocation-là. Quand tout ça est sorti à la bibliothèque, il y avait aussi des changements de direction, donc du coup, peut-être qu'on va pouvoir redémarrer, mais il faut redémarrer tout ça. Mmh. Voilà. Donc je tiens à dire qu'on est, c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué à faire vivre, même si on sait qu'il y a des gens. Moi, je me suis postée pour voir. Il y a beaucoup de gens qui rentrent, qui écoutent, qui jouent. Par contre, qui comptent, il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, il y en a très peu qu'on peut garder, qui correspondent vraiment. Enfin voilà. Mais après, on a des aspects techniques dont vous parlez, Jean-Marc, qui alourdissent les choses. Vraiment.
Donc là, effectivement, il y a les deux écueils qu'on rencontre, c'est la médiation, c'est l'accompagnement. Pour compter, il faut vraiment un accompagnement. Et puis, dès le départ, on a eu un problème très, très bête, en fait, c'est qu'on dépend tout à fait du département, et le département a un système informatique très lourd, et donc avec des pare-feux. Et donc, il nous impose de ne pas utiliser de connexion dans les expositions. Et ça, à partir de là, ça pose un problème majeur, c'est-à-dire qu'en fait, on demande aux gens leurs emails, leurs coordonnées, pour avoir une interaction avec eux, pour leur envoyer des informations ou leur compte, etc. Et le logiciel lui-même pourrait faire la sauce, c'est-à-dire réenvoyer, etc., les informations, mais ce n'est pas possible. Donc, la solution qui a été trouvée, c'est d'extraire, comme vous disait Patricia. Donc, là, c'était la phase, c'était pour le compte, hein. On en était au compte. Donc, toujours les informations pour compter.
Là, c'est le schéma actentiel, c'est là où on réexplique ce que c'est que le compte, en fait.
Voilà. Et puis, là, j'en étais à cette situation-là où, effectivement, on va mettre en place un outil donc, de modération sur la machine elle-même. Voilà, on tape un code, etc., et les gens qui sont habilités peuvent voir ça. La première chose, c'est de modérer les comptes. Enfin, même s'il n'y avait pas eu de connexion, on aurait été obligé de le faire. On voit les comptes qui apparaissent, par exemple, ici. Vous avez 31 comptes. Et on doit tous les passer en revue pour voir s'il y en a, il y a des gens qui s'amusent, des enfants qui sont à plusieurs, qui crient, etc. Donc on ne sélectionne pas. Et à la fin, une fois que tout est modéré, c'est-à-dire qu'on a retenu un certain nombre de comptes, là, on va être, le logiciel va les exporter sur une clé USB qui, elle, va nous permettre d'envoyer ces informations-là sur un serveur pour être soit...
Qui n'est pas le nôtre, voilà, qui n'appartient pas au département, sinon on n'a pas
qui est en dehors du département.
Et voilà. Du coup, c'est ça qui rend les choses hyper compliquées. Autant, pour vous dire, on ne va pas tous les jours sur la machine. Je suis la première à ne pas y aller parce que c'est tellement compliqué de faire ça qu'il faut tout laisser. Ça prend un temps pas possible.
C'est une situation qui n'avait pas été du tout prévue au départ des blablateurs quand ils avaient créé leur projet, etc. Donc, c'était des choses qu'on pensait pouvoir les résoudre facilement, mais...
Au moment du développement avec la société avec laquelle on a travaillé, c'est vrai que tout ça, ça a été posé, mais c'est vrai qu'on pensait aussi que des choses évolueraient avec notre système informatique, enfin, voilà, notre direction des systèmes informatisés. Bon, c'est pas facile, donc on se heurte à ça, et c'est un problème que je dirais qui est quand même majeur. C'est pas le seul problème que nous ayons avec la machine, puisque... Bon, il faut qu'on arrive à travailler davantage et la faire connaître, mais on a besoin pour ça d'une tablette itinérante, puisque pour travailler avec des groupes, ce n'est pas possible. On l'a déjà fait, on a déjà fait des expérimentations, ça marche bien, mais voilà, on doit s'extraire de cet espace et partir dans un autre espace quand il s'agit de groupe ou de classe. Ça, c'est indispensable. Et puis, il faut vraiment qu'on puisse avoir accompagné les enseignants pour qu'ils comprennent bien comment ils peuvent s'en servir, comment ils peuvent utiliser cet outil, enfin voilà. Après, avec le public lambda, la difficulté, c'est vraiment aussi que les gens comprennent bien ce que c'est qu'un compte, quels sont les ingrédients qui doivent figurer dans le compte. Et c'est là où on se heurte aussi à beaucoup, beaucoup de comptes qui sont refusés, qui ne sont pas des comptes, en fait.
Ouais. C'est toute la différence entre la réalité traditionnelle, les choses qui sont transmises et les choses qui sont inventées sur le moment face à une machine. Voilà, c'est là toute la difficulté. Par contre, ce que je dois dire, c'est que tu l'as testé aussi, le jeu... est extrêmement convivial et extrêmement ludique.
Ça marche très bien.
De créer des comptes à plusieurs comme ça, on peut y passer des heures, hein, ça c'est évident. Donc on est toujours bloqué par ce problème d'obstacle bêtement informatique. En fait, à l'ère aujourd'hui de la Wi-Fi, etc., ben, on n'a pas accès à cet outil-là pour l'instant. Quoi.
Ce qui fonctionne, c'est l'écoute et le jeu. La dépose du compte, elle, pour l'instant, on est pas, ça ne va pas. Quoi. On a beaucoup de travail à faire.
Et le problème qu'on
sait. Malgré tout, quelques moyens, quand même pas liés, on est heurté face à des questions informatiques. On en est un peu à la préhistoire aussi, on peut faire quand même dans ces trucs. pouvoir jouer aussi un rôle de sensibilisation. Je ne sais pas quels sont les interlocuteurs, c'est peut-être les systèmes d'information. Parce qu'au sein des structures départementales, il y a des informaticiens qui sont intéressés justement pour développer, mais ils ne sont pas sensibilisés, ils ne savent pas ce qu'on fait. Ils le découvrent un peu au fur et à mesure des projets d'expo itinérante ou temporaire. Et eux aussi sont bloqués. Je pense que le réseau d'op aurait sans doute un rôle de sensibilisation.
Mais nous, on nous avance aussi des arguments très sécuritaires aussi, oui, par rapport, pour ne pas mettre en péril non plus le réseau. Là, je parle du réseau du département. Et du coup, je ne sais pas si nous, on fait bien le poids par rapport à ça. Parce que c'est vraiment ça. Eux, ils ne veulent pas qu'on soit une porte d'entrée. Voilà, ils ne veulent pas que voilà. Quand on a, je reviens juste là-dessus. Quand on a eu Muséomix, on a dû créer un réseau parallèle, le temps de Muséomix, pour pouvoir avoir du débit de l'entrée et de la sortie en continu pendant 3 jours. Et donc, on avait des informaticiens qui étaient là, pas H24, mais quasiment, pour pallier à toutes les pannes et tout, mais ça n'a pas été accepté. On n'a pas ouvert notre réseau départemental pour cette opération, qui était quand même, en plus, c'était la première fois qu'il y avait 6 muséomix simultanés, enfin, il y avait quand même une grosse médiatisation autour. Il y a eu un réseau qui a été créé simultanément, provisoire. Et donc, voilà, donc par rapport à l'aspect sécuritaire, je ne sais pas comment on peut arriver à convaincre. Je ne sais pas trop. Ça,
parce que c'est un problème récurrent. J'ai déjà eu à régler des problèmes de ce type-là dans d'autres expositions, notamment sur le autochrome, tu sais, pour prendre des photos. Les gens se prenaient en photo et ne pouvaient pas récupérer la photo par mail. C'était très compliqué. Enfin, c'est...
Ça limite l'interactivité.
Oui, c'est simple. C'est pas soumis
la question de l'application.
Et l'intérêt aussi. Aujourd'hui, en fait, dans la réalité des choses, c'est la machine au musée de Finois, elle existe, elle est fonctionnelle. Pour 2-3 petits détails sur qui auraient à corriger peut-être au niveau du logiciel, la machine itinérante existe, etc. Mais on est bloqué par ce genre de choses et les écueils s'accumulant, effectivement. Ben, et puis aussi, il y a du temps de personnes à consacrer pour la médiation, pour l'accompagnement. C'est la réalité. Voilà.
Est-ce que vous pouvez préciser un peu ce... En quoi consiste le dispositif itinérant et pourquoi visiblement ça n'a pas abouti ce...
Alors le dispositif itinérant, c'est la même tablette, sauf que après cette tablette, les comptes qui sont intégrés, qui vont être, je veux dire la même tablette, pas en dimension,
22 pouces,
voilà, mais c'est la même chose, quoi, voilà. Sauf que ce qui va être enregistré sur cette tablette itinérante devra être reversé dans la nôtre. Ensuite, donc ça c'est encore plus compliqué parce qu'il faut que donc ça revienne chez nous, qu'on reverse ça dans la base commune, puis ensuite qu'on le réextrait. Donc voilà, on a aussi ça. Et puis ce que je disais aussi, c'est quand ce projet a été décidé, il y a eu un changement de direction à la bibliothèque, donc du coup la directrice actuelle, elle est arrivée, elle a pris le projet en cours de route, ce qui n'était pas simple aussi pour elle. Donc en fait, pour l'instant, voilà, le projet il a pas vraiment démarré. Il a démarré un petit peu, mais ces questions techniques sont un vrai frein. D'accord. Pour en avoir rediscuté un petit peu, pour eux c'est un vrai frein. Enfin, je veux dire, c'est pas suffisamment simple. C'est dommage. Il faut transporter la tablette, revenir au musée. Enfin voilà, on a quand même ça va pas. Et ça encourage pas. Il y a un vrai manque de souplesse, vraiment, voilà. Et puis du coup, ça rallonge le temps. Alors après, le temps qu'on réponde, qu'on modère, qu'on fasse tout ça, les gens parfois ils se rappellent même plus qu'ils ont. On leur envoie un mail, ils savent même plus de quoi on parle. Non, mais c'est vrai. Et voilà, donc il y a une distanciation là qui va pas du tout. Et voilà. Je sais pas si j'ai répondu.
Ouais,
hein,
Oui, c'est d'autant plus dommage qu'au niveau du réseau informatique du département, on a vraiment tous les serveurs qu'il faut, quoi.